Vous écoutez
RMC. RMC, Rotten sans flamme. Un euro symbolique.
Otto Durand, il était peut-être hors jeu, Papin. Et but. Non, il n'est pas en jeu
sur le talonnade. Voilà.
But de Papin.
Valeur absolue, peut-être qu'on le méritait, mais pas sur le tournoi final.
L'Euro 92.
Eh oui.
19h02 sur RMC. Oui, on est là dans Rotten sans flamme. Oui, on refait notre opération Euro symbolique. On va se régaler. L'Euro 92 avec Pascal Olmeta, avec Jean-Michel Larquet, avec Jean-Louis Tour. On est là. On va laisser parler, bien sûr, beaucoup Pascal Olmeta qui va tout nous raconter. Restez bien avec nous. On est là jusqu'à 20h. Et on vous le dit tous les jours, avant de parler de l'Euro 92. Si vous avez raté la première heure, c'est pas bien. Elle était de grande qualité. Et en plus, j'ai gagné au procès contre Jean-Michel Larquet. Je vous conseille d'aller réécouter le podcast. Mais attendez la fin de l'émission.
Et on verra si tu gagnes aussi au quiz tout à l'heure à 19h45 avec à gagner cette semaine des enceintes portables de Lexon. Pour vous inscrire, vous envoyez top au 732-16. Et puis on parlera de Conte Sessao à 19h30 dans le ring des supporters. Est-ce que l'OM a fait le plus dur avec lui? Il n'a pas encore dit oui, mais il n'est pas insensible à l'approche de l'OM. Donc 32-16 pour réagir aux infos RMC Sport sur le ring des supporters tout à l'heure. On y va, on ferme les yeux, on retourne en 92.
Ça rappelle de très bons souvenirs. L'équipe de France est arrivée cet après-midi à Stockholm.
Finalement, vous n'avez pas trop de pression sur vous?
Non, on ne joue pas.
Donc c'est important, quand vous avez une équipe qui a du cœur, qui a envie de faire des résultats, c'est toujours intéressant pour un sélectionneur.
Et but de
Otto Durand, il était peut-être hors jeu, Papin. Et but.
Non, il n'est pas hors jeu sur le talonnade. Voilà.
But de Papin.
Sen.
Et ouh, attention. Et but. But réussi.
Et but. Et but.
La Suède est qualifiée. La France est éliminée.
Plus de 3 ans, Platini porte le football français sur le plan international à bout de bras. Il a été l'homme providentiel, il le reste.
Et on avait pas cette expérience nécessaire pour être dans les quatre derniers. En valeur absolue, peut-être qu'on le méritait, mais pas sur le tournoi final. Donc je crois que c'est logique qu'on rentre chez nous.
Et oui, Jérôme.
L'Euro 92.
Moi, j'abandonne pas les amis, moi.
32 ans après, Jean-Michel a toujours la même voix.
C'est incroyable.
Elle a pas bougé.
Non, mais elle a pas bougé.
C'est impressionnant. Hein.
Par contre, là, il y avait un prompteur. Il répétait quelque chose.
Alors, tous les soirs, jusqu'à vendredi, dans Rotten sans flamme, on se souvient.
C'est incroyable, toujours de tailler, de rabaisser. C'est incroyable. Ça, c'est... T'as une maladie, toi, il faut que tu te fasses vacciner. Hein.
Franchement, quand tu étais en train de lire quelque chose quand tu parlais.
Ben, si tu veux, je l'avais écrit avant. Oui.
Ah, voilà, merci.
Donc tous les soirs jusqu'à vendredi, on se souvient d'un euro symbolique dans Rotten sans flamme, un euro qui a marqué l'histoire du foot français hier. Vous pouvez podcaster ça, on vous a détaillé l'euro 96 qui a lancé les Bleus jusqu'à la victoire en 98. Mais 4 ans plus tôt, il y avait donc cet euro 92 en Suède. On va en parler avec Pascal Olmeta qui était dans le groupe retenu par Michel Platini et avec Bernard Casoni, notre invité qui était défenseur des Bleus à l'époque.
Salut Bernard.
Salut, salut à tous.
Bienvenue Bernard, ça va?
Merci à vous.
Oh, Cazzoni, il y a Cazzoni.
Ça va pas, quoi.
Cazzoni.
Ça fait plaisir.
Il est là.
Ah, il est là, il est en vacances, parce que Bernard.
Je suis sur l'île. Hein.
Bon.
Mais en bas, dans le nord.
En bas, dans le nord. Ah, je croyais que c'était le sud, en bas.
Ah ouais, moi aussi, ouais.
Non, c'est, je suis en bas, mais dans le nord.
Le sud, c'est nous.
Ouais. En bas, mais dans le nord, ok. Ouais.
Alors, en bas, mais dans le nord. Mais je comprends.
Ouais, bon.
Mais non, mais là, ça nous dépasse, ah, Michel. Hein, mais là,
c'est un message codé, ouais, Michel.
C'est un code, oui.
Cherchez pas, les gars.
Alors, on y va pour 7 euros. Donc, Michel Platini est à la tête de l'équipe de France. Ouais. Parce que ça se passait mal sur les campagnes précédentes, pas qualifié en 88, pas qualifié en 90, et Platini arrive pendant la campagne de qualif de 90, même s'il arrive en novembre de cette époque-là, il n'arrive pas à renverser la vapeur, mais donc il prend vraiment l'équipe de France pour la phase de qualif pour cette Euro 92, et on fait que des victoires.
Ah ouais, impressionnant, non?
Là, tu parles des éliminatoires, là.
Oui, des éliminatoires pour l'Euro 92, ouais.
Que des victoires.
Oui. 8 matchs, 8 victoires.
Jean-Michel. Bernard, c'est Pascal.
Ça. Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus sur les victoires? Pour gagner autant, il devait y avoir une dynamique incroyable de groupe, bon. Bernard.
Ouais, mais déjà, il y avait une ossature marseillaise. Mm-hmm. Et puis après, tout le monde était le bienvenu aussi. Donc voilà. Il y avait Michel qui était le fédérateur de tout ça. Il y avait voilà, il y avait quand même un noyau dur aussi et sur lequel on pouvait s'appuyer, mais puis bon, les victoires, on a enchaîné les victoires, pas toujours dans la facilité, hein, c'était dans la difficulté, souvent dans la difficulté, mais on avait un duo quand même devant qui était très fort avec Papin et Cantona, quoi.
C'est ça. Donc l'ossature des Marseillais, donc c'est Boli, Amorose, vous, Bernard, Angloma, Durand, Deschamps, Papin, ah ouais, donc
l'équipe de l'OM, quoi.
Et c'est ça, des début ouais, des années 90, et ouais, en ajoutant Cantona devant. Donc.
Et Eric Cantona et Jean-Pierre Papin s'entendaient bien?
Ben ouais, ils se faisaient marquer, hein, quand même. Voilà. Mmh. Après, les deux marqués. Hein.
Pourquoi tu poses cette question, Jérôme? Pourquoi tu poses cette question?
Non, parce que on a souvent entendu que sportivement, il pouvait y avoir des problèmes qui ne s'entendaient pas. Et là, on a la preuve du contraire.
Mais c'est le terrain qui parle à un moment donné. Hein. Mmh. Voilà. Canto, là, il a fait marquer.
C'est l'intelligence des joueurs.
Il a fait marquer Canto, voilà, à un moment donné.
Bon. Mmh. Pascal, c'est quoi tes souvenirs les plus forts? Tu dis merci encore aujourd'hui, ouais, à Michel Platini?
Ah ben, mais un grand. Mais alors, un grand merci. Deux fois merci. Parce que d'une,
ben ouais,
il me fait venir dans la sélection. Moi qui avais connu que les A-primes, les espoirs, etc., tant de matchs. Et Platinoche, il me fait venir dans cette équipe pratiquement de la marseillaise. Mais le deuxième merci, c'est l'avant-veille du match. On joue contre une D2 locale. Et me dit, Pasqua, tu as le capitaine, qui est capitaine de mon équipe, qui est attaquant. Et en plus, je marque, il me dit, voilà, je t'ai donné une sélection.
Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Non, c'est...
Ah
non,
mais j'ai compris vrai, pourquoi on a perdu, alors.
T'as perdu, qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Oh, mais c'était un régal. Cazo, tu te rappelles la dame qui nous avait mis dans le bus, la blonde, la ouais, sécurité la...
Ouais.
Oh, pas. Quand on est arrivé, c'est la Miss du quartier. Quand on est parti, c'est Miss Bond, les gars. C'est,
d'accord. Très bien. Donc ça, c'était
en 92. Ah non, mais il n'y avait que des blondes. Mais c'était extraordinaire.
Ah bah c'est, oui, magnifique. C'était la Suède. Hein,
Suède, il y a plus de blondes que de brunes. Hein.
Voilà, c'est ça, effectivement. Alors, Jean-Michel, tu te rappelles de critiques sur le jeu, ce à quoi faisait allusion Bernard, efficacité, ça gagne, mais pas forcément flamboyante.
Non, mais vous ne vous rendez pas compte d'abord que la qualification pour l'Euro 92 était déjà un exploit. Hein.
Alors, oui, c'est vrai, à cette époque-là, oui.
Parce que il y a pas on est combien là pour le prochain Euro 24?
Oui, là il y avait 8 qualifiés.
Ah
oui,
là il y avait 8 déjà qualifiés. Bon, donc déjà être dans les 8, c'était déjà parce que l'équipe de France est sortie d'une situation, je parle de l'équipe de France, pas de l'équipe de Marseille, l'équipe de France est sortie d'une situation compliquée. Bon, il y avait 90 ouais, avec une non qualification pour l'Italie, et on avait 94 qui se profilait encore davantage. Mais moi, le souvenir que j'ai de cette équipe, c'est que, elle perd sur un match par un but d'écart contre le Danemark, qui a été oui, la surprise
totale.
Alors
attends, j'arrive à la phase de poule, Jean-Michel. Puisqu'effectivement, donc on est qualifié avec toutes ces victoires. On arrive donc dans une poule de 4. Donc il y avait deux poules de 4 et les deux premiers passaient directement en demi puis en finale.
Alors dans la poule de 4 du départ, oui, il y a la Suède qui est le pays organisateur. Voilà. Il y a l'Angleterre et normalement il y a la Yougoslavie.
Exactement. Voilà. Mais la Yougoslavie est disquiée. En raison
donc,
du rapport,
donc, conflit, aujourd'hui, conflit, aujourd'hui,
et le Danemark qui est rappelé au dernier moment.
Aujourd'hui,
alors qu'ils étaient
en vacances. Oui, mais aujourd'hui, vous tombez dans une poule où il y a la Suède chez elle, l'Angleterre, la Yougoslavie et la France. Vous appelez ça tous, vous
ouais,
appelez
groupe
ça
de la mort.
Le groupe de la mort, hein.
Oui, oui.
Donc, et là, l'équipe de France arrive à faire deux matchs nuls héroïques, dont un. Alors là, j'aimerais que Cazo me raconte, parce que je crois qu'il y avait Stuart Pearce qui jouait du côté de
l'Angleterre. Ça, c'est le deuxième match dont tu parles. Oui.
De l'Angleterre. Et Cazo, sur un corner, il y a Boli qui lui en met une, mon ouais, pauvre. Mais je ne sais pas, il lui a éclaté la tête, le nez. Et ah ouais, bon, personne. Il avait la figure en sang. Joué, ouais, il s'est rien passé. Mais il l'avait déglingué sur ce... Bah. Qu'est-ce qui s'est passé, Cazo? Il y avait eu un petit contentieux, ou quoi?
Non. Bon,
il n'y avait pas de contentieux.
On avait fait un match à Wembley, amical.
Ah, ok.
là-bas, on avait perdu.
Cazot, je ne sais pas si tu te rappelles, moi, à l'entraînement, quand on a su que c'était les Danois qui étaient repêchés, contre qui on allait jouer, je ne sais pas si tu t'en rappelles, tu ne savais pas, on ne les avait pas pris au sérieux.
Alors attends, juste avant de venir au Danemark, finissons sur cette anecdote de l'Angleterre. Donc, Bernard, donc il y avait contentieux après le match amical.
Oh, je pense qu'il y avait, parce qu'on avait perdu à Wembley. C'était une de nos. On avait fait, après nos 8 victoires, on avait eu deux défaites dans celle de Wembley. Et ça nous était resté un peu à travers de la gorge aussi. Puis après, il y avait eu un petit litige avec. Stuart Pearce, parce qu'il a ramené un peu, et après, voilà, il a réglé ses problèmes.
Il y avait eu règlement de compte en direct.
Il a dû rater le ballon, voilà.
Il a raté le ballon et a raté la tête, oui.
On a réglé ça, la Marseillaise.
Il n'avait pas fait exprès.
Bah, bien sûr. Donc, le premier match, c'est nul. Donc, nul contre la Suède pour le premier match, un partout avec un but de Papin à l'heure de jeu qui égalise. Ensuite, il y a ce match contre l'Angleterre, 0-0. Et arrive donc le match face au Danemark, un match où un nul suffit. Et c'est ça ce que tu commences à nous raconter, Pascal, que vous n'aviez aucune info sur le Danemark ?
Aucune info, et je me rappelle le discours de Platinoche qui a dit, bon, de toute façon, on rentre pour gagner, mais c'est des joueurs très physiques, il faut s'attendre à les prendre dans la gueule. Et pendant les 25 premières minutes, on a vu, je me rappelle, même Schmeichel, il jouait très très haut, Peter Schmeichel.
Ouais, gardien, ouais.
Et on se les est pris, mais dans la gueule. Ça a été.
Et puis ils sont arrivés sans complexe, sans pression.
Et puis notre ami Bruno Martini. J'ai un petit souvenir.
T'as son âme.
Beaucoup à Bruno et à Gérard Rouillet. Mais voilà, c'est. Bruno, il était. Il tremblait. Il tremblait. Quand on le voyait avant le match avec les lunettes et le livre, je me dis, putain, qu'est-ce qu'il fait, Bruno les gars,
t'as choqué qu'il ait un livre.
Bruno, il était choqué. Il avait moins l'habitude que nous.
Ah, c'était le seul qui avait un livre.
Il savait pas lire.
Qu'est-ce qu'il y a, Pascal ?
Non, la voix de Cazot, elle m'impressionne. Il a changé de voix, les gars.
Ah ouais, j'ai changé de voix.
C'est lâche, hein, je sais pas moi.
C'est lâche.
Il y en a qu'un qui a pas changé de voix.
Oui, c'est Jean-Michel. Et donc, alors, j'ai une question sur ce match face au Danemark. Donc, un nul suffisait. Pourtant, vous prenez ce but à 12 minutes de la fin d'Elstrup, là, qu'on a entendu tout à l'heure. Et donc, il y a cette fameuse histoire du hors-jeu que vous avez joué alors que Platini vous avait demandé de ne pas le jouer. Et c'est comme ça qu'on prend le but. Pouvez-vous nous raconter, vous, du point de vue du défenseur, Bernard ?
Vous savez, nous, après, on avait nos habitudes aussi à Marseille. On se servait souvent du hors-jeu. Mais déjà, à Marseille, on jouait différemment parce qu'on jouait à 3 en zone. Et en équipe de France, on jouait plus au marquage.
Okay.
Donc, on avait, même si on avait fait nos résultats avant, donc on essayait de s'adapter toujours plus ou moins. Mais des fois, on se servait du hors-jeu. Ben, ça a souvent marché. Comme là, une fois, ça a moins bien marché. Quoi. Mmh. Voilà.
Mais vous n'avez pas dit de ne pas jouer le hors-jeu, Platini ?
Bah, lui, il était pas trop pour ça, mais nous, on avait nos habitudes aussi. Il y a des réflexes qui reviennent aussi de temps en temps.
Résumer
la défaite à ça, c'est pas.
Non, ce que je veux dire, c'est que ça arrive souvent que sur le terrain, on prenne des initiatives.
Je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé aussi, c'est qu'au mois de mars, on avait perdu Bernard Pardo.
Oui.
Voilà. Mmh. Il s'était blessé au genou avec Marseille. Et je pense que d'avoir perdu.
Il joue à la place de Durand, ou plutôt Durand joue à sa place, et c'est plutôt ça.
Ouais. Ou mais puis Bernard Pardo, même dans le groupe et sur le terrain, c'était un leader, quoi.
Ouais. 400, voilà, il a fait un petit coucou parce que il est en réa.
Ouais. Il est fatigué en ce moment, ouais.
Très fatigué. Il est fatigué. Alors on l'embrasse très fort.
On va revenir dans une seconde pour continuer de se souvenir donc de cet Euro 92 en Suède, donc de cette magnifique équipe de France de l'époque, mais qui malheureusement ne passera pas le premier tour. On continue cet Euro symbolique sur RMC, à tout de suite.
RMC, Rotten sans flamme. Un Euro symbolique.
Poteau Durand, il était peut-être hors jeu, Papin. Et but.
Valeur absolue, peut-être qu'on le méritait, mais pas sur le tournoi final.
L'Euro 92.
19h17, oui, on refait l'Euro 92 avec Bernard Cazoni, avec Pascal Olmeta qui ont participé à cet Euro. On est aussi avec Jean-Michel Larquet qui l'a commenté, avec Jean-Louis Tour. On continue de de revenir là, dans, voilà, de se remémorer un peu les histoires de l'époque et le pourquoi du comment, pourquoi être éliminé comme ça au premier tour.
Exactement. Je vous fais la compo un peu type des trois matchs, ceux qui ont le plus joué. Ouais. Donc c'est Martini dans les buts. Vous êtes grosso modo à 5 derrière. Amoros, Sangloma, Boli, Blanc, Casoni. Milieu de terrain, Deschamps, Sauzé, ouais, pas mal. Deschamps, Sauzé et Luis Fernandez. Papin, Cantona. Devant.
Il est où le créatif là-dedans?
Bah ça, je sais pas, moi, Jérôme.
C'était Luis.
Et oui, voilà. Alors, c'était le grand truc de Michel Platini de dire mon numéro 10 à l'Euro 92, c'est Luis.
Ah, bah donc on comprend pourquoi on n'est pas passé alors.
Bon, Luis qui est peut-être un peu moins technique que Platini à l'époque, oui, effectivement. Je pense qu'il ne sera pas vexé qu'on dise ça, Luis.
Ah, peut-être qu'il va se vexer.
Il sera là jeudi, Luis, d'ailleurs, dans l'Euro symbolique. Oui, c'est vrai qu'il va se vexer aussi, mais bon. Non, mais alors, ça, c'était quand même un des débats du moment aussi, Jean-Michel, parle sous ton contrôle, l'absence d'un numéro 10 ou de quelqu'un capable de faire le jeu.
Ah, celui qui devait être un petit peu le maître à jouer, c'était Cantona, mais il a un profil, il n'avait pas un profil de stratège, Eric Cantona. Il avait il marquait beaucoup de buts à l'époque, hein, que ce soit
il jouait devant comme deuxième attaquant,
mais jouait plus 9 et demi, 9 un quart que numéro 10, quoi. Et c'est vrai que, mais je vais poser une question à Cazot là. Cazot, dans cette équipe là au départ, il n'y avait pas le petit qui était un bon joueur, qui était le petit Christian Pérez qui jouait à Nîmes, non?
C'est Christian Pérez, le gaucher.
Il est dans le groupe et il remplace Luis parfois sur les matchs.
Et c'était le seul qui avait un profil un peu de
c'est lui qui pouvait mener le lien entre les défenseurs et les milieux.
Alors, je vais encore jouer les historiens à deux balles, mais là, de ce groupe-là, il n'y en avait que deux qui sortaient aujourd'hui. Non seulement ils sont 24 au départ, mais même les meilleurs troisièmes sortent. Donc, c'était compliqué, c'était beaucoup plus difficile. Donc, on joue un petit peu, on était un peu difficile avec l'équipe de France qui avait gagné un euro, bon, qui n'avait rien gagné d'autre, et on s'imaginait encore être les meilleurs. Mais je trouvais que cette équipe de France s'était pas mal comportée en 92, pas mal.
Ouais, mais c'est parce que nos éliminatoires avaient été sans faute, c'est pour ça que de suite on était presque des favoris, quoi.
Et peut-être aussi parce qu'à ce moment-là, on se rend pas compte que la Suède, ils vont faire troisième de la Coupe du Monde 94 et que c'est vraiment solide, que le Danemark, ils sont capables de gagner au bout, et ça a été la grande surprise.
Quant à moi, l'équipe du Danemark, il y a de bons joueurs qui sont partis à l'étranger aussi. Hein.
Ouais, exactement.
Mais moi, j'ai une question pour Bernard. Bernard, est-ce que Eric Cantona était déjà chanteur à l'époque?
Non, mais c'était super, Eric. Sincèrement, c'était un super joueur.
Non, mais il avait déjà ces talents-là.
Il chantait déjà.
C'était aussi juste que sur son dernier album.
C'était mieux.
Alors, l'histoire de cet Euro 92, donc on a parlé de la France, mais donc c'est quand même cette histoire du Danemark, qui donc les joueurs étaient en vacances, ou quasiment, ils sont rappelés dernier moment.
Ils étaient en vacances.
Oui, ils étaient complètement en vacances. C'est vrai. Mais ils sortent de ce groupe, quand même, donc groupe qui était dur pour la France, mais donc dur aussi pour le Danemark. Ils sortent au tir au but les Pays-Bas en demi-finale, et ils battront donc l'Allemagne.
Ils éclatent l'Allemagne.
2-0 en finale.
À ce match-là, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Si tu veux.
Et c'est Schmeichel dans les buts, Brian Laudrup.
Ouais, mais quand on
connaît tous les joueurs, le bison devant, c'était. Oui, mais de très, très bon. L'Herbie, comment il s'appelait au milieu de terrain? Comment vous le. Milieu terrain, vous allez le retrouver. J'ai Alzheimer, là.
Jesper Olsen?
Tu peux aller dans l'after.
Oui, il y avait Olsen.
Il y avait Jesper Olsen, oui.
Mais il y en avait d'autres, oui, qui étaient. Et cette équipe-là, et ça a remis en question beaucoup.
Jensen, Vilfort.
De préparation. Je vais vous. Larsen, Elkier Larsen, c'était l'avant-centre. Et.
Poulsen.
Poulsen.
Ah, Poulsen, oui, d'accord. Très bien.
Oui, voilà. Effectivement. Et ça a remis en question la préparation qui était toujours millimétrée des autres équipes, parce que non seulement ils sont arrivés avec tout rouge parce qu'ils avaient pris des coups de soleil, les Danois, puisqu'ils étaient en vacances, mais même entre les matchs, c'était la récréation. Hein. Et on ne peut pas dire qu'ils étaient invités de dernière heure, et même pendant le tournoi, ils avaient continué à être en, on va dire, en semi-vacances. Et malgré tout, non, mais ils avaient éclaté. Ouais. Et ils avaient éclaté, mais l'Allemagne, ce jour-là, ce devait être à Malmö ou à Göteborg. Où est-ce qu'elle est, la finale? Est-ce que j'ai commenté? Je pense que
je sais pas. On s'en fout, on s'en fout, Bernard. Et Pascal aussi.
Bernard était.
Moi, j'ai une question pour Bernard.
Il n'avait pas existé.
Ouais. Bernard, j'ai une question pour toi sur le sur l'Euro. Sur l'ambiance du groupe, est-ce que on a souvent dit qu'il y avait un clan des Marseillais et vous étiez nombreux. Est-ce que ça a joué aussi? Ça a pu jouer, à ton avis?
Non. Mais nous, moi, il y en a qui jouent à Paris, il y en a qui jouent ailleurs. J'ai joué avec un espoir et tout. J'ai joué dans des clubs aussi. Donc, il n'y avait pas que d'un clan marseillais, c'est faux ça.
Il n'y avait pas d'animosité, quoi.
Ben non, tout le monde était le bienvenu, des Auxerrois, de tout le monde.
Oui, si on les acceptait, Bernard. Ouais.
Comment?
Ah tiens, tu vois, regarde, regarde Bernard, ce qu'il se dit.
Si on les acceptait, mais non, mais c'est
des conneries. Non, mais il y a eu ce...
Parce que tu avais les meilleurs joueurs du moment, c'est tout.
Oui,
c'est...
mais il y a quand même eu ce fantasme-là, tu vois, de dire les Marseillais, c'était...
Un truc avec Lama, parce qu'on l'avait pas fait jouer aux cartes avec nous, un truc comme ça.
Ah d'accord.
Non, mais il n'y était pas, Lama, c'était...
La liste
c'était
pas,
le grand de Lyon.
Rousset.
Ah ouais, Gilles Rousset.
C'était Gilles.
La polémique, elle était venue un peu de la main à un moment donné, parce qu'on l'avait pas mis à jouer aux cartes avec nous, alors qu'on avait nos habitudes et nos chantiers. Lui, il savait pas jouer à la belote. Voilà.
Ah, ça, c'est pas sympa. C'est pas sympa.
Bon, une sacrée histoire.
Et puis, connaissant Bernard, à mon avis, il est pas rancunier, donc ça va.
Non, il est susceptible, je veux dire. Sincèrement, non. Bon. Sincèrement, moi,
non, mais en plus, on était fatigués, Cazzoli. On était fatigués, rappelle-toi. Il faisait jour.
Ouais, on avait fait une préparation quand même assez costaud.
Ah ouais?
Il n'y avait pas la nuit. Ouais.
Non, mais il n'y avait pas la nuit.
Bien sûr, en Suède, oui, l'été en Suède, c'est comme ça.
Tu pouvais pas dormir.
C'était Göteborg, la finale, Jean-Michel, pour répondre à ta question. Et derrière cette élimination, donc, Platini va démissionner. Et c'est donc Gérard Houllier qui va prendre la suite, qui était son adjoint, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça, oui.
Bon. Et Bernard, la suite...
Henri-Émile, le papa de tous.
Ouais. Bernard, vous faites quelques sélections derrière pour la qualif à la Coupe du Monde.
Jusqu'à la Finlande, ça a été mon dernier match.
C'est ça. Novembre 92.
Ouais.
La
première sélection de Lisa, je crois.
Ah, Lisa, il a mis tout le monde sur le banc, Eric Dimeco.
Il a envoyé tout le monde à la retraite, c'est dingue. C'est dingue, ouais.
Bon, ben Bernard, merci beaucoup d'être venu sur
Bernard. Bravo Bernard.
Merci à vous.
Merci.
Vous n'avez pas des comptes à régler avec Jérôme? Parce que hier, Mickaël Madar a fait ça en fin de.
Non, il n'y
a
pas d'interview. Bernard.
Non, pas du tout. Non, pas du tout.
Très bien, non, c'est pour être sûr.
4 soirs, il balance.
Bernard, t'en es où pour la suite?
Eh ben, je cherche un club parce que j'ai encore envie de travailler. Puis bon, j'attends. Je passe au mois de novembre au tribunal, quoi. Voilà, pour mes propos racistes.
Oui, d'accord.
Soi-disant racistes, quoi. Voilà.
On en a parlé dans la saison.
Écoute, on te souhaite bon courage, en tout cas. Tu as tout mon soutien.
Ouais, c'est gentil.
Et dans tous les cas, on se voit bientôt parce que je viens en Corse cet été. Donc, on va se voir.
Tu as demandé de l'autorisation pour venir?
Ouais, écoute.
Ne l'habite pas.
Vous inquiétez pas.
Mais en haut, dans le nord, en bas.
Ne vous inquiétez pas, je suis plus corse que certains corses.
Ah bon? Pascal? D'accord. Merci Bernard Cazzoni, à bientôt.
Merci Bernard.
C'est l'euro symbolique de Christophe Dugarry. Ce sera l'euro 2000. À 19h dans Rotten sans flamme. Ne ratez pas ce moment. L'actu, l'OM dans une seconde. Est-ce que le plus dur est fait avec Conte Sao selon vous? 32-16 supporters marseillais. On va vous donner les infos de Florent Germain d'hier soir. À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h31 sur RMC, la dernière demi-heure de Rotten sans flamme de ce mardi soir. On se régale avec Jean-Michel Larquet, avec Pascal Olmeta, avec Jean-Louis Tour. On remercie encore Bernard Cazzoni d'être venu nous raconter l'Euro 92 en compagnie de Pascal Olmeta, bien sûr. On est là encore une petite demi-heure avec le quiz de Julien Cazard dans 15 minutes et un super cadeau à vous faire gagner. Eh bien, Jean-Louis, on continue.
Oui.
Les supporters.
Alors, le super cadeau à vous faire gagner dans le quiz, c'est une enceinte. L'enceinte portable Minot T de la marque Lexon, qui peut se transporter partout avec un design épuré, figure-toi.
Épuré?
Oui. Ah ouais. Pour vous inscrire, vous envoyez top au 732-16. Top au 732-16. Et venez faire perdre Jérôme, c'est quand même toujours rigolo.
J'ai gagné hier.
Ouais, mais bon, c'est quand même plus drôle quand tu perds.
En route pour un grand chelem.
Rendez-vous tout à l'heure. L'OM tout de suite, à bon espoir.
RMC. RMC, Roten sans flamme.
Le ring des supporters.
Alors, les infos de Florent Germain hier et de la rédaction d'RMC Sport. Donc, il y a plutôt de l'optimisme chez les dirigeants marseillais pour faire venir Sergio Conceição. Les discussions se sont intensifiées hier et dimanche. Même si on reste prudent, même s'il n'y a pas de oui définitif chez Conceição, il y a quand même de quoi être optimiste parce que les dirigeants ont senti que Conceição ne discutait avec personne d'autre, avait dit non à certaines sollicitations, donc on a interprété ça comme un signe fort. Il a parlé de choses sur l'avenir, donc il a vraiment envie de s'inscrire dans le projet. Alors certains à la direction marseillaise ou au club même, plutôt au club, s'étonne un peu du temps laissé à Conceição face à ses hésitations et on est plutôt dans l'incompréhension face à la patience donc des dirigeants. Mais Longoria estime que le jeu en vaut la chandelle et que sur le marché il n'y a pas meilleur que lui, donc ça vaut le coup d'attendre et de ne pas lui mettre la pression avec un éventuel timing. C'est quand même un contrat de 3 ans qui lui est offert, donc faut que ça se fasse vraiment dans de bonnes conditions. Ça avance, dit-on, dans les bureaux de la commanderie et il serait pas insensible au projet. Alors, est-ce que le plus dur est fait déjà d'avoir Conceição qui serait pas insensible au projet? Est-ce que ça va le faire? Vincent est là, il monte sur le ring des supporters.
Salut Vincent.
Salut à tous.
Bienvenue Vincent. Salut. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de Conceição?
Alors, moi je serais content qu'il soit là l'année prochaine. Je pense que Conceição il viendra que s'il a des garanties d'avoir certains joueurs. Et même s'il a déjà fait quelques miracles avec certains clubs, je pense que il pourra pas réitérer tout dans chaque club où il ira. Je pense aussi que ce qu'il cherche, c'est de la passion, un peu comme ce qu'il avait à Porto, et que ça pourrait être un très bon élément, mais il faut lui mettre des outils à portée de main. Si on garde l'effectif actuel sans épurer l'effectif, sans virer certains joueurs, je pense que même là, il a beau être Conceição ou qu'il veut, ça va être compliqué de faire des choses très très bonnes l'année prochaine.
Ouais, alors après, ça on peut toujours anticiper, mais on peut aussi se rassurer en se disant que si Conceição donne son aval pour signer ce contrat, c'est que il a aussi quelques garanties sur le fait que l'Olympique de Marseille arrivera à recruter des joueurs qui vont correspondre à sa politique de jeu, quoi, au profil. C'est important d'avoir avec des idées très claires. Conceição, on le sait, il a des idées très claires dans la façon de faire fonctionner ses équipes. Tu restes pas autant d'années dans un club comme Porto sans avoir une vraie ligne directrice, et ça s'est traduit très souvent par des très bons résultats. Donc j'imagine que s'il donne son aval, c'est que déjà il aura rien de mieux, et ça je pense que c'est pour ça qu'il met du temps et qu'il attendait.
Il attend quelque chose
d'autre. Il attendait peut-être une équipe, et on en a parlé la semaine dernière.
Oui, des infos de Flo Germain, c'est de dire qu'il a plutôt envie de décompresser plusieurs saisons à Porto et de régénérer.
Il peut pas dire à Marseille et aux dirigeants marseillais, écoutez, j'attends mieux, donc je vous fais patienter. Si j'ai pas mieux, je signe chez vous. C'est très clair que c'est ça. Aujourd'hui, Marseille est très attractif pour un joueur français ou pour un entraîneur français, ça c'est une certitude, mais pour un entraîneur qui a déjà gagné, qui a entraîné des grands clubs en Europe, aujourd'hui c'est moins attractif qu'il y a quelques années. L'OM, aujourd'hui, ils font pas de Coupe d'Europe quand même, tu vois. Ils sont au niveau budget bien placés, mais il y a tellement des erreurs de casting que ce groupe et cette équipe est à reformer, tu vois.
Après, Nico Villas a expliqué qu'au Portugal, l'OM était très respecté.
Oui,
plus encore qu'ici.
Ouais, mais d'accord, Jérôme. Mais oui, si tu as un championnat à chaque fois que tu reçois au Vélodrome, tu as 65 000 personnes. Mmh. Tu sais, des fois, il vaut mieux aller à Marseille et avoir cette ambiance et vivre ce que chacun vit à Marseille. C'est mieux que d'aller ailleurs où tu ne gagnes même pas avec une grosse équipe.
Mais regarde, Pascal, je te pose la question.
Et puis là,
laisse-moi te poser une question. Tu es à la place de Conceição. Non, mais tu es à la place de Conceição. Je ne te parle pas de Pascal Olmeta, ancien joueur très attaché à l'Olympique de Marseille, bien sûr, à la place de Conceição. Ouais. Aujourd'hui, tu regardes, tu as la Lazio qui fait la Coupe d'Europe, d'accord ? Et tu as l'Olympique de Marseille qui est là et qui voudrait que tu l'entraînes. Tu fais quoi ? Franchement, logiquement, il va à la Lazio.
Non, peut-être que si tu vas à la Lazio et puis tu sors au premier tour, et pourquoi pas arriver à Marseille où on te donne les clés avec un budget et tu arrives avec ton staff, parce qu'ils arrivent tous avec leur staff. Il n'y a pas un entraîneur français qui part à l'étranger avec 10 personnes. J'ai jamais vu ça. Mais il arrive à Marseille, il a les clés, il a un budget pour prendre les joueurs plus ou moins qu'il lui faut. Bon, là, il devrait se dépêcher, mais peut-être que c'est déjà fait, et je l'espère. Je l'espère, parce que tu as tout à construire. Parce que là, chaque année, ça démolit, mais on n'avance pas. Et j'espère de tout cœur que si, quand c'est ça arrive, que ça change un peu. Parce que le public, il y est. À l'année, tu fais complet.
Ce qui est inquiétant, je vais te dire. Alors, le fait d'attendre contre Cessao,
ça a toujours été inquiétant.
Mais si ça se fait, Pascal et Jean-Michel, et même Vincent, si ça se fait avec contre Cessao, ils ont eu raison, à mon avis, d'attendre, parce qu'un entraîneur de cette envergure-là, je ne pensais pas que Marseille serait capable de l'attirer. D'accord. Une fois que tu as dit ça, si jamais ça ne se fait pas avec contre Cessao, mais c'est problématique. Alors déjà, il y a les droits télé. Donc c'est compliqué pour les finances de l'Olympique de Marseille aussi. Hein, ils font partie des clubs où c'est compliqué. Et tu n'as plus d'entraîneur. Tu as une équipe à reformer, mais oh, on est le 11 juin. On est le 11 juin.
Jean-Michel.
Enfin, moi, j'espère qu'ils arriveront par s'entendre. Mais pour moi, il y a deux choses qui m'étonnent. La première, enfin, il y a deux choses qui posent problème à mes yeux. D'abord, quand on mène une négociation, la meilleure façon d'échouer, c'est de l'étaler au grand public et de faire le feuilleton, de feuilletonner là-dessus. Donc, à chaque heure, eh bien, on parle de Conceição, il a fait un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas en avant. Ça, déjà, ça me perturbe. Bon, c'est Marseille, c'est un petit peu l'ADN de ce club et de cette ville, mais je trouve d'abord que cette négociation, elle est tout sauf discrète, et je pense que c'est pas une bonne chose. Et la deuxième chose, Conceição, tout Conceição qu'il est, et surtout parce que c'est Conceição, et surtout parce qu'il sait que aujourd'hui l'effectif de l'Olympique de Marseille n'est pas suffisant et n'est pas et qualitativement et quantitativement pour faire une bonne saison. Il veut pas des assurances, lui. Il veut voir dans son effectif des joueurs qui ont véritablement signé à l'Olympique de Marseille et des joueurs de qualité. C'est surtout ce, je pense que la principale interrogation, c'est pas le public, c'est pas l'ambiance, Pascal. Ouais. C'est pas l'image de l'Olympique de Marseille. Ce qui interroge le Conceição, c'est l'effectif qui sera à sa disposition l'année prochaine. Point final. Mais il sait très bien que s'il est un bon entraîneur, c'est parce qu'il a eu parfois des bons effectifs. Et quand il a eu des effectifs moyens, il a fait des résultats moyens. Et il ne vient pas à Marseille pour faire des résultats moyens.
Pascal. De dire à l'OM, et pourquoi il ne pourrait pas.
Parce que s'il était dans cette politique-là, il aurait déjà signé, Pascal.
Pascal, il veut bien signer à l'OM, mais sans lui dire oui, on va prendre des bons joueurs. Non, attendez, vous n'allez pas prendre des bons joueurs. Moi, je veux voir aujourd'hui. C'est probablement ce qui empêche Conceição de se décider aujourd'hui. C'est-à-dire que si on continue,
ou bien c'est parce qu'il attend un plus grand club, comme disait Jérôme tout à l'heure.
Ou peut-être, mais si on on va continuer avec un tel, et je ne cite personne pour ne vexer personne, il va dire non, avec ça. Excusez-moi.
De toute façon, il va être rassuré. À Marseille, on change toujours l'effectif.
L'instabilité va avoir lieu.
On remercie Vincent.
Changer, mais dans le bon sens.
Vincent. Oui.
Je peux juste rajouter un dernier truc.
Vas-y.
Je pense que effectivement, c'est ce qu'il a dit, et c'est exactement ça. Et il y a de grandes chances qu'il attende que les droits de TV soient adjugés, que Longoria puisse lui donner des vraies certitudes, parce qu'il a dû regarder aussi les problèmes qui est dans l'effectif pour ensuite les gommer en trouvant des joueurs intéressants.
Mais Vincent, il va pas attendre aussi que la bonne mère descende. On est le 11 juin. Hein.
Ben ouais, mais justement, il a tout intérêt à le faire. Comme vous l'avez dit, il a été champion trois fois. gagner la Coupe du Portugal 4 fois, vainqueur de la Coupe de la Ligue 1 fois et finaliste 2 fois.
Avec de bons joueurs.
Avec des bons joueurs.
Il faut qu'on avance, Vincent.
C'est exactement ce que je dis. Il va absolument falloir des garanties pour lui. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Allez, merci à toi. Merci.
Bon courage et bon euro, hein, surtout. Hein.
Ouais, bah tiens, Portugal ce soir, hein, on va regarder.
Allez, on va pousser
en match de prépa, effectivement.
Sur les Portugais, allez, je pense qu'ils font partie des favoris.
Avec Pep et Ronaldo.
Ah oui, ils font partie des favoris. Bon, on aura le temps d'en parler à partir de vendredi.
C'est les jeunes qui poussent.
Oui, c'est ça. Merci Vincent, à bientôt.
Le coup, salut Vincent.
Dans une seconde, en parlant des jeunes qui poussent, Jérôme, ils sont face à toi, les jeunes. All Metal.
La fessée à Jérôme. Ah,
là, ils sont vieux.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h47 sur RMC, les 10 dernières minutes de Rotten sans flamme du soir avec le quiz de Julien Cazard, bien sûr, avec une équipe formée par les papis flingueurs. Ils sont là. Pascal Olmeta, Jean-Michel Larquet avec mon joker. Moi, c'est Jean-Louis Tour, deux auditeurs. Un cadeau.
Un super cadeau,
c'est quoi?
Une enceinte.
C'est l'enceinte.
De Lexon. Ouais. De la marque Lexon, et c'est la Minotée. Ouais. Qu'on vous offre.
Design épuré.
Ouais, design épuré. Ouais. Ouais. Il peut se transporter partout aussi. Voilà les infos que j'ai.
Ouais.
On y va ?
Donc c'est épuré. Ouais. Allez, on y va.
Rotten contre le reste du monde, saison 3.
On me dit que le son est spatial.
Sûrement.
Oui, on me le dit.
Je n'avais pas cette info, mais oui.
Je te le dis.
Très bien. Alors ce cadeau sera soit pour Mickaël, soit pour Jérôme qui sont avec nous.
Ah.
Bonsoir à tous les deux.
Salut Mickaël, salut
bonsoir,
Jérôme.
Bonsoir.
Salut les gars.
Bonsoir.
Mika, tu veux faire équipe avec Jérôme ou avec le reste du monde?
Avec le reste du monde.
Voilà, vu l'accent, c'est un supporter marseillais.
Bah, nickel. Okay. Moi, j'aurais dû jouer avec Jérôme, c'est parfait.
Bon, bah, Jérôme, t'es avec Jérôme.
Jérôme, on est là. Mais c'est plus simple. On va faire perdre
avec les jeunes.
Les Marseillais.
Oh. Ouais. Petite question flash pour commencer.
Il y a eu, à l'entraînement, une altercation.
Rudy
Völkrug.
Fulkrug.
Ah, ils l'ont dit chacun.
Entre Fulkrug et Rudiger.
Rudiger.
Bonne réponse de Jérôme Rotten.
Eh oui, non, merde, toi, non. Et ça commence pas. Ça va commencer comme ça.
Jean-Michel, il a dit Rudiger, c'est vrai. Et moi, j'ai dit Fulkrug. Ben
ah, il avait dit Rudiger en premier.
Ouais, je n'ai pas entendu.
Bah, oui. Autant pour moi, Jean-Michel.
C'est un partout. C'est un partout.
Moi, j'ai dit Rudiger, Fulkrug.
Non, t'as pas dit Fulkrug, excuse-moi. Là, par contre, là, sois honnête. Sois honnête, t'as dit Rudiger et moi, j'ai dit Fulkrug.
Les mecs qui vont se battre pour savoir qui a dit la mauvaise réponse.
1-0 pour le reste du monde.
Mais non.
Et Jean-Michel a marqué son point.
Ah, enfin, Jérôme, il a dit Rudiger avant toi.
C'était Rudiger, la réponse.
Ah, c'était Rudiger.
Mais oui.
Tu vois, tu t'énerves pour rien.
Et après,
c'était quoi ta question?
Hein?
C'était quoi la question?
Ah oui, bon là, si la.
Rudiger, avec quel joueur Fulkrug a eu une altercation?
Ah d'accord. Okay. Voilà, autant pour moi. Autant pour moi.
Merci patron.
Donc c'est Jean-Michel, je lui donne.
Il est magnanime ce patron.
Je lui donne.
Qui a rien à voir.
Tu me donnes rien du tout.
Je lui donne.
Bravo à Jérôme qui offre ce point.
Oui, je lui offre.
Question qui n'a rien à voir avec le fou.
Non, bah là, Pascal Ometa, il va être bon.
Qui a fait les minima pour les JO de justesse chez les Français?
Meilleur.
Jean-Michel.
Ah, c'est l'arqué.
Sans conteste.
Sans contestation.
Mais juste, il l'a appelé meilleur.
Ouais.
Normalement, c'est meilleur.
Ouais, c'est meilleur.
Après,
excuse-moi, c'est important.
Ah, là, mais le problème, c'est que si on commence à reprendre.
Il manque pas un truc pour être sûr d'avoir fait les minima? Il manque pas le 1500 mètres?
Bon, 2-0.
Le 1500 mètres,
je suis seigneur, je lui donne le point.
Il donne le point. Bravo. Bravo, Jérôme.
Non, je lui donne.
Jean-Michel.
Tu veux savoir comment il a fait au javelot?
Ouais, il a été énorme.
Et ça, juste de l'avoir. Jérôme, t'as laissé le point, Jean-Michel.
Ouais, c'est
bravo, Jean-Michel. Je lui donne.
Il me l'offre.
Ouais, il te l'offre.
Jean-Michel, comment tu faisais au javelot, toi?
Je me perçais les pieds au javelot, moi.
Savoir ce qu'il visait surtout. Et c'est quoi le javelot?
C'est le javelot, c'est Kevin Meyer. Kevin Meyer, il fait du javelot, en tout cas. Autant Maillère que du javelot.
Je faisais du javelot. Je laisse Pascal répondre maintenant. Allez,
qui c'est qui est tout pourri? Ah, là, il vaut deux points parce qu'il est tout pourri celui-là.
Je prends le joker.
Oh, il prend le joker.
Le joker, c'est Matteo Guendouzi.
Voilà. Je comprends pas les questions. Alors voilà, je veux pas faire la réponse. Voilà. Voilà quoi.
Bon, c'est Jean-Louis qui va faire. Voilà.
Ah, Matteo.
Voilà.
Comment ça fait? Quel conviction, quel acteur.
C'est fou ça, c'est entre Jack Guilénol et Hugh Grant.
Par contre, l'année prochaine, il faudra faire autre chose quand même.
Au Qatar, tu envoies ta question ou quoi?
Quel joueur de l'Euro 92
Cazoni
est une fille qui est prise d'un garçon?
Mais de
un joueur français de l'Euro 92.
Durand. Alors, elle est quoi? Elle est quoi si elle est éprise d'un garçon? Elle est
amoureuse. Amoureuse.
Elle est amoureuse. Bonne réponse de Jean-Michel.
Ah, je ne voulais pas.
4-0. Merci à Jérôme d'offrir
ça. Pascal. Pascal.
Il y a une question à 3 points.
Vas-y, oh.
Celle-là, elle est dure, elle est à 3 points.
J'ai dit Manu, mais il faut dire le nom. Manu Amoros, oui.
Oui, parce que Manu, s'il y a le jeu de mots, il marche moins déjà.
Bon, Jérôme, arrête de laisser des points à Jean-Michel.
Le problème, c'est que comme on lui souffle
Amoros. Je lui donne.
Quand on te souffle Amoros et que du coup, tu dis Manu.
Ouais. À qui tu dis là, Katsar?
À personne.
Tu sais où je vais te souffler au Katsar?
Bien sûr, oui.
Dans le Gévelot.
Dans le Gévelot.
Dans ton cul.
Le Gévelot.
Merci
Pascal. Ça fera de la musique.
Quel vulgaire.
Qui que c'est, dis donc, il y a 3 points en jeu, calmons-nous.
C'est avec un chat.
Pour ceux qui pensent qu'on est encore sur France Culture, on est bien sur RMC. Non, parce que parfois les gens zappent.
Non, oui, là il n'y a pas trop de doute.
Non, il n'y a pas de doute. Qui que c'est, dis donc, 3 points. Mon premier est un ruminant ou une barbiche. Mon deuxième veut dire oui en arménien. Mon troisième est une poche dans le sud-ouest. Mon quatrième, Bukayo Saka. Bonne réponse. Et oui, Ayo veut dire oui en arménien, faut le savoir. Bukayo Saka.
Bukayo Saka.
Voilà.
4-3. Tu laisses pas les points, Jérôme?
Non, là je les prends. Là, je les prends.
4-3.
4-3.
Question. Qui est pas.
C'est quoi? Qu'est-ce que c'est?
Ah, Jérôme est bon à ça.
Citez-moi un joueur de France 98. Qui ne déteste pas Didier Deschamps.
Amoros.
Qui déteste pas De Sailly.
De Sailly, bonne réponse.
Amoros
qui joue en 98.
Oui,
bien sûr.
98.
Non, mais on parle de gens qui ont commenté les matchs, quand même. Hein.
Amoros.
Zidane pour Amoros. Oui.
On est sûr que De Sailly aime bien Deschamps.
Oui. C'est le seul. Oui, donc, on va pas s'être
campé.
Le seul, peut-être. Qui ne le déteste pas.
Non, peut-être pas. Lionel Charbonnier aussi.
J'ai dit France 98.
T'es crabe.
Qui qu'est l'intrume.
Bon, là, il y a égalité 4 partout.
Toujours pas compris
la question.
Fallait citer un joueur de France 98 qui déteste pas Didier Deschamps. Voilà, c'est tout.
Il y en avait plein.
Il y en avait au moins deux. Qui qu'est l'intrus? On embrasse Didier.
Ah, ça c'est pour Pascal. Je sais que c'est pour Pascal. Mais
attention, cette question est plus compliquée que l'autre.
Ah oui,
elle est plus forte.
Qui est l'intrus? France, RFA, Espagne.
Qui est l'intrus? Ouais,
c'est rapport à l'euro. Hein. France, RFA, Espagne.
L'Espagne n'a pas gagné l'euro chez elle?
C'est pas ça. T'aurais pu, mais c'est pas ça. C'est pas l'Espagne,
RFA.
France, RFA, c'est pas la RFA. Mais c'est la France.
C'est la France,
pourquoi?
La France, elle a gagné que l'euro qu'une fois, deux fois, non?
Non, la France a gagné
l'euro à domicile.
Non, non, il l'a dit au final, la France n'a gagné que deux fois. L'euro et les autres,
il a pas dit en français.
Une fois et deux fois.
J'ai dit la France, elle a gagné qu'une fois, deux fois, je sais pas.
Non, mais arrête. Non, mais franchement. Non, mais ça va pas.
Tu envoies le point, Jean-Michel.
Franchement, je peux lui offrir pour le dentier. Parce que je pense que le dentier, il a bougé.
C'est ça.
Est-ce qu'on peut t'offrir un dentier connecté?
Non, mais Jean-Michel, tu sais, sur les dentiers, maintenant, tu peux mettre une colle pour que ça se détache pas.
Polydent ou Stéradent. Il y a deux marques. Donc, Polydent ou Stéradent.
5-4 pour le reste du monde.
Tu la mets dans un verre pendant la nuit.
Voilà.
Et quand tu.
Et c'est nickel. Franchement, pense à nous. Polydent.
5-4,
dernière question.
Ça vous fait plaisir.
Pascal.
Je rigole pas, on verra peut-être Gérard Larcher comme président bientôt. On embrasse les vieux qui nous écoutent.
Et
leur sonotone.
5-4, dernière question.
Qui qu'a wedge ici?
Un joker.
Qui a quoi dans le dos, pardon?
Dernier point, joker.
Quoi? Il a un joker? Non, c'est un autre joker. Il joue pour les autres, pour le reste du monde.
Alors du coup, on va faire une question larquée.
Obligé. Mais non, mais pourquoi?
Si, bah oui.
Salut, c'est Jean-Michel Larquet sur RMC.
Oh, c'est moi le dinosaure.
La victoire.
Attends, là c'est un Larquet qui a quoi dans le dos?
Non.
Non, on oublie qui a quoi dans le dos.
C'est une question Larquet, j'ai changé.
Ok.
Question Larquet. Pour la gagne. À la Coupe du Monde 1958.
Oh, arrête.
Ouais. C'est Larquet, À la Coupe du Monde 1958, quel club était le plus représentant de l'équipe de France derrière le stade de Reims?
Nantes, Bordeaux, Monaco,
Colombes. C'est le Racing
Lille.
Lens.
Marseille,
Montpellier, Marseille, Monaco, Bordeaux,
Cannes.
Bordeaux, Saint-Etienne.
Il y en a deux.
Lyon. Lyon. Bonne réponse de Jean-Michel Larquet. Lyon et Angers étaient les deux.
Angers, victoire du reste du monde, effectivement, et de Mickaël qui remporte l'enceinte.
Lexon, marque française d'objets design et connectés, vous offre le cadeau idéal pour tous les amateurs de déco et de design. Découvrez les coffrets et objets dans les grands magasins et sur lexon-design.com.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.